Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ecclésiaste, chapitre 7, et le verset 12. La Bible parle beaucoup à propos de la sagesse. Et dans Psaume 111, verset 10, je ne m'y rapporte pas, Psaume 11, verset 10, nous lisons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, il y a ici une dimension spirituelle qui est ajoutée. Le lien entre la crainte de l'Éternel et la sagesse. Et quand nous arrivons au Nouveau Testament, ça va encore plus loin. Nous voyons qu'il s'agit de notre avenir spirituellement. Par exemple, 2 Timothée chapitre 3 et le verset 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 14, je lis. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Verset 15. Dès ton enfance, c'est Paul qui parle à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc, c'est une sagesse qui a à voir cette fois-ci avec le salut, te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres, les Écritures, peuvent donc nous rendre sages à salut. Ça a à voir avec notre salut. C'est très important. Et bien entendu, nous connaissons les saintes lettres lorsque nous étudions la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de notre étude biblique. Notre étude biblique personnelle. C'est donc très important et c'est le sujet de ce sermon. Premièrement, il nous faut être conscient de ce que c'est la parole de Dieu. Et là, de nouveau, je le cite, mais je ne m'y rapporte pas. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 13. Où nous voyons le principe ici, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça, c'est le point de départ. La parole de Dieu est vivante, comme c'est marqué dans la Bible, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est quelque chose qui produit un effet dans notre vie. Croire en Dieu et croire en sa parole. Ça aide, ça développe notre foi. Et Dieu s'attend à ce que nous étudions sa parole. Psaume 119 et le verset 130, de nouveau, je ne m'y rapporte pas. Psaume 119, verset 130, dit ceci. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » Et dans le King James en anglais, je traduis en français, le mot, c'est compréhension, donne la compréhension. C'est pour notre édification, nous étudions la parole de Dieu, pour notre édification personnelle, pour nous rendre sages à salut. Et ceci nous protège aussi des fausses valeurs qui existent dans le monde. La parole de Dieu a plus de valeur que tous les autres livres réunis. Parce que justement, cela nous rend sages à salut. C'est ça la portée de la parole de Dieu. Ça n'a pas de prix. C'est la révélation du Créateur à sa création. Où il parle de son plan, comment vivre nos vies pour avoir le meilleur résultat. Les résultats que nous désirons tous, c'est bel et bien la parole de Dieu. Il nous faut écouter et écouter attentivement cette parole. C'est aux eaux de Mara que Dieu a dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est donc plus que le fait d'entendre la parole de Dieu que nous étudions, pour ainsi dire. La Bible parle également de prêter l'oreille à ses commandements. C'est écouter dans le but d'apprendre. Écouter pour avancer. Et quand nous sommes convertis et quand nous sommes proches de Dieu, Dieu nous parle personnellement à travers la Bible. Dans Romains chapitre 12, verset 2, nous lisons « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, pour connaître, pour savoir ce qui est la volonté de Dieu, il faut connaître la Bible. Parce que Dieu donne sa volonté dans sa parole. Et nous voulons également avoir une pleine connaissance du Fils de Dieu, le Christ, qui est notre modèle parfait. C'est le Christ qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le Christ a vécu parfaitement, sans jamais pécher. Il est notre chemin. Et nous pouvons étudier la vie du Christ pour connaître ce chemin. Le fait de connaître, c'est un fil rouge, c'est un fil conducteur, si vous voulez, qui traverse ce sermon. Il faut connaître la parole de Dieu pour avancer. La parole de Dieu apaise, fortifie et tranquillise. Quand nous regardons le psaume 119, c'est un genre de psaume d'amour, si vous voulez, à propos de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Et la personne qui l'a écrit aime la loi de Dieu, aimait la loi de Dieu parce qu'il la connaissait, il a pu écrire ce que nous trouvons dans ces versets, ces nombreux versets. Jameson Fossiter Brown dit ceci, je traduis en français, que le contenu consiste principalement des louanges pour la parole de Dieu, des exhortations pour sa lecture, The New Bible Commentary Revised dit ceci, que c'est une méditation élaborée, ingénieuse et passionnée de la loi de Dieu, de la loi du Seigneur, à ne pas confondre avec le légalisme des pharisiens. Et le mot en hébreu est « Torah » qui signifie « enseignement ». Le rabbinat dit ceci, « Ce psaume est consacré tout entier à l'éloge de la loi de Dieu. » Si vous voulez bien, nous allons regarder quelques versets dans le psaume 119. Et nous allons commencer avec le verset 18. Psaume 119 et le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous pouvons demander, nous pouvons prier Dieu pour qu'il nous montre ses voies à travers justement sa parole, pour que nous puissions mieux pratiquer ses voies. Verset 102. Verset 102, « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. » Nous constatons ici un enseignement personnel. Celui qui a écrit les psaumes, ce psaume, avait un contact avec Dieu et recevait de la part de Dieu un enseignement personnel. Et c'est aussi notre but que nous ayons une relation personnelle avec Dieu et que Dieu nous enseigne personnellement à travers sa parole. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 165. Verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. De nouveau, Jameson Fawcett de Brown dit justement qu'il n'y a que deux versets qui n'ont pas de rapport avec la parole de Dieu. Celui qui a écrit le psaume, donc, il aime cette loi de Dieu, la parole de Dieu qu'il avait, qui était disponible à ce moment-là, et il l'aimait parce qu'il le connaissait. Et donc, il a pu écrire tout ce qu'il a écrit à son sujet. Ceci nous démontre la valeur de la parole de Dieu. On va prendre quelques versets d'un psaume acrostiche où les lettres de l'alphabet en hébreu sont répétées chacune 8 fois de suite. Vous avez 8 versets avec une lettre commençant avec la même lettre en hébreu, puis une deuxième série de 8 versets qui commence avec la deuxième lettre de l'alphabet en hébreu, et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'il y a 176 versets dans le psaume, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Nous allons prendre donc psaume 119, toujours, à partir du verset 9, la deuxième section. Et nous allons voir la richesse de ces paroles, de la parole de Dieu. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après ta parole. D'avoir la parole de Dieu présente à l'esprit à travers, justement, une étude quotidienne, régulière et assidue. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Son désir, c'était de chercher Dieu, de chercher sa volonté, et on cherche Dieu, et on recherche Dieu et sa volonté en étudiant la parole de Dieu. Entre autres, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour celui qui a écrit le psaume, c'était précieux. Il fournissait un effort. Et l'étude biblique, c'est aussi le fait de fournir un effort. Et en fournissant un effort d'approfondir la parole de Dieu, nous avons une récompense. C'est le fait de ne pas pécher contre Dieu. Et en approfondissant, en cherchant dans la parole de Dieu, nous voyons davantage qui Dieu est, comment il agit, nous comprenons davantage son plan et ce qu'il veut pour nous. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Dieu nous enseigne à travers la Bible, il nous instruit, il nous montre, qu'il nous guide, il nous montre comment mener nos vies. Par exemple, Dieu veut que nous développions les fruits de l'Esprit de Dieu. Et nous avons la possibilité d'approfondir ces fruits de l'Esprit, de regarder les passages qui ont rapport avec les fruits de l'Esprit, et de regarder aussi, étudier les exemples qui nous sont donnés aussi dans la Bible. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Il peut le faire parce qu'il le connaît, il les connaît bien. C'est à voir avec la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de choses qui nous aident de nos jours, les brochures, vie, espoir et vérité. Nous avons discerné, nous avons énormément de choses à notre disposition, sans parler de tous les renseignements qui sont donnés sur notre site. Verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Vous voyez le mot qui est employé ici, des trésors, parce que la parole de Dieu est un vrai trésor. Et il se réjouit de pouvoir suivre les préceptes de Dieu. Verset 15. Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous les yeux. Après une bonne étude biblique, nous avons de la matière à réflexion. Nous avons des choses de Dieu sous les yeux. Ça dénote cette intimité avec la parole de Dieu. Puis il parle également dans le verset 15 de sentier. J'ai été sentier sous les yeux. Les sentiers, parce que la personne qui a écrit le psaume sait où aller, parce qu'il a cherché. Il sait ce qui est bon et il sait que c'est bon. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Si nous étudions la parole de Dieu tous les jours, nous n'allons pas l'oublier. Ça fait partie à ce moment-là, ça fait partie de notre vie. Et bien sûr, cela nous est bénéfique. Je voulais revenir sur toujours le psaume 119 et le verset 105. 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce que la parole de Dieu est claire pour que nous puissions suivre justement ce bon chemin, qu'on ne soit pas égaré et que nous évitons à ce moment-là ce qui est mauvais. C'est un éclaircissement et un éclairage. Sinon, nous sommes aveuglés. Dans le verset 18, le psalmiste demande à Dieu d'ouvrir ses yeux. Et il est important que Dieu nous ouvre nos yeux pour que nous voyions, que nous comprenions justement sa parole. Sinon, nous allons tâtonner aveuglément dans un monde de ténèbres. 1 Pierre 2, 9, je le cite seulement, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, dit que celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et nous voulons bien sûr toujours être dans la lumière et pas dans les ténèbres. La vie est étourdissante par moments. Nous regardons peut-être les patineurs sur glace et nous sommes émerveillés de voir les pirouettes que parfois ils font, les figures. Et Europe 1 a écrit un article à leur sujet. Je cite, « Il y a quelques astuces qui m'aidaient quand j'étais en reprise après une ou deux semaines d'arrêt. Il faut fixer un point au départ et à la sortie d'une pirouette, quand c'est notamment Florent Amodio. Florent Amodio était le champion européen en 2011. Cela permet au cerveau de récupérer plus vite son équilibre et la technique est la même pour éviter la nausée en mer. C'est aussi celle qu'utilisent les danseurs de ballet. Le mal de mer, avec le mal de mer, il faut fixer un point à l'horizon. Slate, qui est un magazine en ligne, et qui analyse, enquête et fait des commentaires sur l'actualité, dans le domaine, entre autres, de la société, dit ceci. Les entraîneurs apprennent des trucs à leurs élèves comme fixer un point à la sortie d'une pirouette, de la même manière que le voyageur fixe un point à l'horizon pour arrêter d'avoir la nausée. En fixant leur vision, les patineurs aident leur cerveau à s'adapter plus vite. Et la loi de Dieu, la parole de Dieu, doit être un point fixe, de pair avec la crainte de Dieu, un point fixe dans notre vie. D'être conscient de ce que Dieu dit et d'être conscient de ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu oriente notre compréhension à propos de nous-mêmes, de notre environnement, de nos relations avec d'autres personnes et de la signification de nos vies. Et cela permet de traverser des épreuves. Quand nous sommes ancrés dans la Bible, la loi de Dieu, la parole de Dieu, c'est un véritable ancre. C'est notre point de repère. Il y a un autre psaume que j'ai voulu que nous regardions ensemble, c'est le psaume 19. Dans le psaume 19, au début, il est question de la gloire de Dieu, dans sa création, et un peu plus loin, nous voyons la gloire de Dieu dans sa loi parfaite. Nous pouvons donc, au début, verset 2, par exemple, psaume chapitre 19 et le verset 2, psaume 19 et le verset 2, nous voyons que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ensuite, à partir du verset 8, nous voyons la loi de Dieu, nous voyons que la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. C'est la Torah, et la signification de la Torah, ce n'est pas uniquement loi, ça peut aussi dire instruction ou enseignement. Du reste, le rabbinat ailleurs enseigne ce même mot, le même mot qui est employé ici et traduit par loi, traduit ce mot par enseignement dans Exode chapitre 16 et instruction dans Exode chapitre 18. Donc, on voit ici la force de la parole de Dieu, suivie par des bienfaits. Verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Le bénéfice moral de la parole de Dieu. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Et quand il considère la majesté de Dieu, révélée dans les cieux, et la perfection de sa loi, David, c'est l'auteur de ce psaume, David se rappelle de ses propres lacunes, et il dit dans le verset 13, « Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. » Quelqu'un qui voit la parole de Dieu de cette façon peut demander ce qui est écrit dans le verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Il y a un retour. On reçoit la parole de Dieu. On la connaît. On l'apprécie. Ça agit dans nos vies. C'est une parole qui est vivante. Et à ce moment-là, on peut demander, verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Une telle disposition face à la Bible, à la parole de Dieu, va inévitablement affecter nos paroles. Dans Deutéronome chapitre 17, à partir de verset 14, nous voyons un exemple qui est très parlant. Dans Deutéronome chapitre 17, et le verset, à partir du verset 14, nous voyons des choses qui allaient différencier les rois d'Israël des autres rois autour. Pour vous qui le pratiquez, pour vous qui le mettez en pratique, verset 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. » Et à partir du verset 15, il y a un certain nombre d'interdictions. Déjà, c'était un roi qui allait être choisi par Dieu, sous l'autorité de Dieu, et qui, normalement, si tout allait bien, allait faire ce que Dieu voulait. Malheureusement, nous voyons à travers l'histoire d'Israël que c'était pas souvent le cas. La première chose que nous constatons, verset 15, « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Dieu avait fait alliance avec son peuple. Il allait, bien sûr, appeler tout le monde. Mais plus tard. Mais donc, ici, il ne s'agissait pas d'avoir un étranger qui ne connaissait pas la voix de Dieu, qui ne connaissait pas les lois de Dieu, la parole de Dieu. Deuxième interdiction, verset 16. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Évidemment, les chevaux pouvaient être une tentation pour construire une puissance militaire plutôt que de dépendre de Dieu. Verset 17. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Donc, d'abord, il ne fallait pas qu'il ait un grand nombre de femmes. On sait ce que Salomon a fait. Et à l'époque de la vieillesse de Salomon, je cite la Bible, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vous trouvez cela dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Et Salomon n'a pas suivi la consigne qui était donnée ici par Dieu, avec des conséquences que nous connaissons. Quatrième chose qui est mentionnée, la quatrième interdiction, à la fin donc de verset 17. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Ça, c'est des grandes lignes de ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Mais il y avait une chose très importante que Dieu a voulu que le roi fasse. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, donc les rois successifs devaient écrire pour eux. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qui prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Adam Clark, le commentaire Adam Clark, spécule que c'était probable que les prêtres, les Lévites, avaient la responsabilité de réviser chaque ou de regarder chaque exemplaire qui était copié pour qu'il n'y ait pas d'erreur, justement, qui s'insère dans le texte. Il fallait garder la parole de Dieu pure. Et c'est marqué dans le verset 18, « Il écrira pour lui dans un livre. » Donc, dès le début, il fallait qu'il écrive une copie de cette loi. C'était la parole de Dieu qui était disponible à ce moment-là dans l'histoire. Et c'est marqué qu'il fallait qu'il écrive. Il écrira pour lui. Le mot « écrire », son sens premier, ça veut dire « graver » et par implication « écrire ». Et le lexique Lueur en français traduit ce mot par « écrire »,« inscrire »,« graver » ou « tracer ». Du reste, il y a une traduction qui date de 1869, dans Josué chapitre 8, verset 32, Josué chapitre 8, verset 32, qui dit ceci. Et là, il grava sur les pierres la copie de la loi de Moïse qui transcrivit, le même mot, en présence des enfants d'Israël. Donc, c'est traduit, c'est le même mot, traduit ici par gravé. Verset 19. Il avait, ce roi, une responsabilité énorme. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, c'était plus qu'un livre qu'il prenait de temps à autre. Il fallait qu'il lise. Le mot est traduit par chercher dans Exode chapitre 2, le même mot traduit par chercher dans Exode chapitre 2, verset 7 et 2, verset 8. Lire, pas comme on lit un roman, mais lire pour pouvoir appliquer la loi. Moïse a donné la consigne que tous les 7 ans, lors de la fête des tabernacles, vous trouvez ceci du Deutéronome chapitre 31, du Deutéronome 31, je cite, je ne m'y rapporte pas, « Tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, et que leurs enfants aussi apprennent à craindre l'Éternel. » Josué chapitre 8, nous l'avons vu tout à l'heure, Josué a donc écrit ou gravé sur les pierres une copie de la loi, comme Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Moïse déjà avait écrite cette loi. Et puis Josué, c'est marqué, donc toujours dans Josué chapitre 8, un peu plus tard, que Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions, les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Ça, c'est Josué chapitre 8, donc le verset 35. Il pouvait voir la loi de Dieu écrite à ce moment-là. Ils entendaient la loi de Dieu, l'œil et l'oreille. Et c'est toujours le même système de nos jours. Nous pouvons regarder la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu avec nos yeux, et nous entendons les explications à propos de la parole de Dieu dans les sermons. Il devrait l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Un exercice quotidien. Afin qu'il... Et ensuite, nous avons dans la Bible quatre domaines, quatre bénéfices, si vous voulez, des choses très positives, très encourageantes, de ce qui en découlait quand le roi faisait ce que Dieu demandait, quand il a lisé tous les jours. La première chose que nous apprenons, toujours dans le verset 19, « Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. » Et ça nous rappelle probablement Deutéronome chapitre 14, où c'est marqué « Afin que tu apprennes, on va à la fête, on va au-devant de Dieu, nous sommes instruits, nous entendons la parole de Dieu, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » On entend la parole de Dieu et on approfondit la parole de Dieu pour mieux la connaître. Notre fil conducteur, il faut que nous connaissions et que nous cherchions à connaître davantage la parole de Dieu, d'avoir toujours cette soif. Deuxième chose qui est mentionnée dans le verset 19, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Une raison supplémentaire de connaître la Bible à fond, pour pouvoir mettre en pratique justement toutes les paroles de cette loi. Pour nous, c'est plus que la loi, puisque nous avons les Écritures maintenant, c'est toute la Bible. Il n'avait pas accès à toute la Bible à ce moment-là. Troisième chose qui est mentionnée, le verset 20. Afin que son cœur ne se lève point au-dessous de ses frères. Il lisait la loi pour pouvoir rester humble. Et ça rejoint bien sûr le Nouveau Testament, quand le Christ parlait de devenir comme des petits-enfants, en lisant justement la parole de Dieu, en restant proche de Dieu. Et puis la quatrième chose qui est mentionnée, toujours le verset 20, est qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Pour qu'il puisse rester sur le chemin étroit avec toutes les bénédictions que ça allait lui procurer. Et la cinquième chose qui est mentionnée, toujours le verset 20, à la fin du verset 20, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Et nous pouvons comprendre qu'ici, Dieu a donné ses instructions à un roi d'Israël ou des rois d'Israël, à quel point ça s'applique encore davantage à nous, qui sommes des futurs rois dans un contexte spirituel, des sacrificateurs où nous allons enseigner la loi de Dieu et la voie de Dieu. Si nous avons de bonnes dispositions, l'étude de la parole de Dieu va transformer nos vies. En parlant de dispositions, nous pouvons justement regarder le psaume 25. De nouveau, il s'agit de David ici, où nous voyons ses dispositions, son désir. Psaume chapitre 25 et le verset 4. Psaume 25, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. De nouveau le mot connaître. Connaître pour pouvoir vivre de la parole de Dieu. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Ce désir d'être instruit par Dieu, son plan personnel. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Et le salut passe aussi par le fait d'être instruit par Dieu, à travers sa parole. David voulait apprendre. Il tenait la main de Dieu. Il écoutait ce que Dieu lui disait. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'autres détails. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16, il y a dans ce verset 4 aspects. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça rejoint ce que nous avons vu au début du sermon. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour savoir ce qui est dans la Bible, pour connaître la vie du Christ, tout ce qu'il a fait, comment il se comportait, qui il était. La correction, c'est pas quelque chose que probablement nous aimons beaucoup. Mais je regardais ce mot dans le lexique, et il donne, lexique loueur, et il donne les deux définitions suivantes, qui sont plutôt encourageantes en ce qui nous concerne. Premièrement, restauration, un état bon ou droit. Restauration, un état bon ou droit. Et deuxièmement, correction, amélioration de la vie ou du caractère. Amélioration de la vie ou du caractère. Qui ne veut pas améliorer sa vie et son caractère? Qui ne veut pas être restauré à un état bon ou droit? Tout au moins dans l'Église. Ce côté-là, de ce point de vue-là, c'est très positif. Mais il y a un but. Dieu nous donne l'Écriture pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu, le but, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le but, c'est de produire du fruit. Accompli en anglais, c'est traduit par parfait. Et dans le Campan, en français, nous lisons ceci, afin que l'homme de Dieu soit parfait, apte à toute bonne œuvre, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Lexique loueur parle de complet ou parfait. Et le second 21, 2007, utilise le mot équipé, et équipé pour toute œuvre bonne. Nous avons, en étudiant la parole de Dieu, des réponses à des questions. Nous avons des explications de comment il faut se comporter face à des situations difficiles, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit. C'est la vérité de Dieu, c'est absolu. Les prophéties que nous étudions, c'est un aperçu, Dieu nous donne un aperçu de notre éternité, entre autres. Dieu nous donne les promesses dans sa parole. Ses engagements, c'est aussi un côté encourageant. Dieu veut que sa parole soit gravée sur nos cœurs et dans nos esprits. Et quand nous lisons dans le verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre », c'est notre but en tant que chrétien. Et on arrive à ce but en utilisant la parole de Dieu, de pair avec le Saint-Esprit. J'ai parlé du Christ tout à l'heure, et nous avons l'exemple du Christ, où le Christ parlait justement de l'Écriture, de la parole. Le Christ était imprégné par la parole de Dieu. Il la connaissait parfaitement. C'est le Christ qui a dit « afin que l'Écriture fût accomplie ». Et il a pu dire sur la croix « tout est accompli ». Tout est accompli parce qu'il vivait de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Et il connaissait les prophéties qui le concernaient. Une fois qu'il était ressuscité, c'était toujours la même chose, toujours cette même base. Luc chapitre 24 et le verset 44, je m'y rapporte pas, mais Luc chapitre 24 et le verset 44, nous lisons ceci. Une fois qu'il était ressuscité, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, « Alors il a ouvré l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. » Afin qu'il comprisse les Écritures. Dieu a ouvert notre compréhension afin que nous comprenions la parole de Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir comprendre la parole de Dieu et il faut la connaître. La meilleure façon de connaître la parole de Dieu, c'est d'étudier. Il faut être convaincu, mais il faut aussi la connaître. Nous avons, pour nous aider, l'exemple parfait du Christ. Et même quand il était attaqué par Satan, chaque fois, dans Matthieu chapitre 4, chaque fois il s'est défendu avec la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1. C'est aussi un exemple pour nous quand nous sommes attaqués spirituellement. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » On peut difficilement imaginer à quel point le Christ avait faim à ce moment-là et à quel point il avait envie de manger. Mais nous voyons dans le verset 4, la réponse du Christ, verset 4, « Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous voyons ici où était son esprit. Verset 5. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Satan a cité l'Écriture, mais le Christ a mis cette situation dans son contexte spirituel correct. C'est important pour nous aussi de mettre les choses dans un contexte spirituel correct. Verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le Christ aura tous les royaumes du monde à l'avenir. Ce n'était pas le moment. Et en plus, il allait prendre le chemin de la croix. Le chemin de la croix pour nous. Nous savons que le Christ est la tête de l'Église. L'Église est son corps. Il a une relation avec son Église. Il la nourrit, il la corrige quand c'est nécessaire, il l'édifie, mais il y a plus. Éphésiens chapitre 5 et le verset 25. Éphésiens chapitre 5 et le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voyons dans le verset 26 que ça commence avec le baptême. Le baptême d'abord quand nous sommes lavés de nos péchés. Et après, il la sanctifie par la parole. La mettre dans une catégorie à part pour qu'elle soit différente, exactement comme Israël, ce que Dieu a voulu faire avec Israël à l'époque. Et la Bible parle d'achever notre sanctification. De plus en plus saint, et ce faisant, nous pouvons mieux résister à la tentation. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, je ne m'y rapporte pas, parle de la parole vivante et permanente de Dieu. C'est quelque chose qui agit en nous, dans nos vies. Quelque chose que quand nous étudions la parole de Dieu, ça nous lave des erreurs dans notre façon de penser. Et nous pouvons être sensibles à la saleté du péché en permettant aux paroles de la Bible de purifier nos esprits et nos cœurs. Nous trouvons la volonté de Dieu dans sa parole. Et ça nous permet de voir ce qui est du siècle présent et ce qui n'est pas de Dieu. Éphésiens chapitre 6 et le verset 17. Éphésiens 6, où il est question de l'armure d'un chrétien. Et dans le verset 17, nous lisons ceci. Prenez aussi la casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. C'est une arme offensive et nous avons besoin d'étudier, de comprendre, de connaître et de vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu se sert de sa parole pour combattre. Pour combattre les tentations, en se servant de la parole de Dieu, des Écritures, de ce que Dieu veut que nous fassions. De combattre contre de faux raisonnements. De refuter, de pouvoir refuter ce qui est injuste. De nous montrer ce qui est bon, pour nous montrer comment il faut agir à l'égard de nos ennemis, par exemple. Il faut que nous puissions utiliser la parole de Dieu activement. Elle est puissante, c'est pour ça qu'il faut une bonne connaissance et un profond respect pour la Bible. Le mot traduit ici en français par « parole » vient du grec, d'un mot grec, rhéma. Et Vines dit ceci à propos de ce mot dans ce contexte. Il parle de l'écriture individuelle ou spécifique que l'esprit nous permet de nous rappeler pour utiliser en cas de besoin. Et ensuite, Vines parle de la nécessité d'une mise en mémoire régulière de l'Écriture. Et avec ceci, nous comprenons l'importance de l'étude biblique régulière, assidue et approfondie. Nous voyons dans la parabole du semeur, dans Luc chapitre 8, à partir du verset 11, qu'il y a trois choses qui empêchent la semence de croître. Luc chapitre 8 et le verset 11. Luc chapitre 8 et le verset 11, voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, le reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation, parce qu'ils n'ont pas approfondi, ils n'ont pas persévéré avec la parole de Dieu. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ce sont toujours des dangers pour un chrétien. Il se laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne porte point de fruits qui viennent à maturité. C'est notre but. Il est important, par exemple, de prier pour que Dieu nous montre ce qu'il veut que nous comprenions, et pas uniquement ce qu'on a envie de voir nous-mêmes, et d'accepter le fait que Dieu nous montre ce qu'il veut que nous comprenions. De rechercher la connaissance de Dieu, de rechercher ses commandements, ses préceptes. Sur un plan pratique, il est important de bien choisir le moment dans la journée quand nous étudions. De choisir des bons moments, des moments propices quand nous sommes tranquilles et quand nous sommes prêts à apprendre. Probablement, nous tous avons été coupables, à un moment ou à un autre, d'avoir mis l'étude de la parole de Dieu après le reste. Nous avons très certainement tous mille et une choses à faire, et c'est facile de justement de mettre l'étude de la parole de Dieu après ces mille et une choses. Mais il faut bien choisir aussi le sujet, que ce soit stimulant, tenir compte de 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16 et ses différentes catégories pour qu'on ne reste pas toujours dans un domaine, mais qu'on élargit notre étude biblique, que ce soit complète, et pour que ce soit pour nous un vrai plaisir d'étudier, d'approfondir, d'apprendre de la parole de Dieu, que ce soit stimulant. Et de cette façon, nous aurons envie d'étudier le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. C'est un outil que Dieu nous donne. Dieu nous donne de très bons outils. Nous les connaissons. C'est l'étude de la Bible, la prière, la méditation et de temps à autre, le jeûne. Et il faut s'en servir à bon escient de ces quatre choses pour croître spirituellement. On dit bien en français, un bon ouvrier a de bons outils. Et Dieu nous a donné d'excellents outils, à nous d'être de bons ouvriers avec ces outils que Dieu nous a donnés. Comme c'est marqué dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu.